Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain est allé faire l'essai en Californie cette semaine de la Kia Niro 2023 que j'avais ironiquement pu apercevoir sur les routes californiennes il y a quelques semaines. Mais là, c'est le début de la commercialisation du modèle qui va arriver chez nous dans quelques semaines à peine, là.
Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est un lancement canadien qui avait lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est déjà en vente.
Ouais.
Donc, on avait pris un petit peu de retard de ce côté-là, du côté du Canada. Alors que le modèle de première génération commençait à s'étirer un petit peu, certains entrevoyaient que le modèle n'allait peut-être pas être renouvelé. On sait que chez Kia, on a la Rio, la Forte 5, le Soul, le Seltos et le Niro. Ça fait beaucoup de petits véhicules à 5 portes. Alors, est-ce qu'il y aura du ménage à faire de ce côté-là éventuellement? Possiblement, mais une chose est certaine, chez Kia, on a mis beaucoup d'énergie et d'emphase sur le Niro de deuxième génération.
Il faut quand même souligner qu'aux États-Unis, la Forte 5 n'est pas vendue et la Soul électrique n'est pas vendue non plus.
Non, mais au Canada, tout ça, on a tout ça.
Alors, la Forte 5, c'est, si tu veux mon avis, c'est la dernière année.
Elle revient pour 2023. Alors, j'ai l'impression qu'elle passera au bûcher. Ce sera pas bien long.
Ouais.
Alors, comme par le passé, une gamme entièrement électrifiée pour le Niro, une version hybride.
On dit le ou la?
Moi, je dis le. Toi, t'as dit la. Voilà. Alors, je pense qu'on peut y aller dans les deux sens.
OK, moi, j'ai une question.
Quoi?
C'est quoi ça, cette espèce de panneau horrible de couleurs contrastantes qu'on met en arrière? On essaie-tu de la faire passer pour une Audi R8?
Je suis content que tu qualifies ce panneau d'horrible parce que chez Kia, on n'arrêtait pas de nous casser les oreilles pour nous dire que c'était beau et que
c'est horrible.
Moi, personnellement, je trouve ça hideux. Ouais. Et là, j'ai beaucoup de misère avec. Et là, ce sont des propos qui n'engagent que moi, là. Mais j'ai beaucoup de misère avec bien des nouveaux véhicules coréens. Sur le plan du design, je sais que ce sont des véhicules qui vont bien, qui ont une technologie intéressante, mais les produits coréens de nouvelle génération, esthétiquement, j'ai l'impression qu'on s'en va dans tous les sens avec ça.
Ouais, on essaye.
On en met plein la vue et par expérience, ça vieillit assez mal comme ça. Et oui, on a un panneau à l'arrière qui a la forme un peu d'un boomerang, d'une couleur. Tout dépendant des versions, là, c'est gris foncé avec les arches de roue, les bas de caisse de la même couleur.
Mais tu peux l'avoir monochrome, le véhicule.
Oui, tu peux, mais visiblement, on est très motivé à le vendre en gris ou en noir chez Kia. Mais oui, ça rappelle un peu la R8, mais un peu la R8 que tu as commandé sur Wish, mettons. Là. c'est pas tout à fait réussi. Mais trêve de plaisanterie, on a une version hybride rechargeable, 100% électrique. Et ça, franchement, c'est une gamme qui est très, très intéressante.
Ouais.
L'hybride, on est à 29 995 franchement,
quand même.
À l'époque où tout coûte extrêmement cher.
C'est le prix d'une Civic.
Où tout coûte une fortune, ben là, tu te ramasses avec un Niro entre les mains, 5 portes, c'est pratique, ça consomme rien.
5 litres au 100.
Ben, on nous a dit 4,8, j'ai fait 5,3. J'ai l'impression qu'il y a sûrement moyen de passer en bas de ça. Franchement, c'est super intéressant. On a la version hybride rechargeable qu'on a bonifiée un peu pour 2023. Cela dit, on n'est pas motivé à en vendre chez Kia. On nous a dit que ça allait être la moins populaire. On ne nous a pas laissé la conduire. Ça, franchement,
okay.
je suis outré, je suis fâché. On avait des exemplaires sur place et il n'était pas question qu'on les conduise. On a conduit l'hybride, on a conduit l'électrique. Il y a une seule version, un seul niveau d'équipement pour l'hybride rechargeable. Bref, on nous dit qu'on en vend même chose
aux États-Unis?
Je ne sais pas pour le marché américain, mais au Canada, on a un seul niveau d'équipement. Donc, on nous dit qu'on n'en vendra pas beaucoup, mais je te confirme qu'on ne s'arrange pas pour en vendre beaucoup non plus. 55 km d'autonomie comparativement à 42 pour...
Donc, un véhicule qui va être éligible à des crédits plus intéressants que par le passé.
Donc, du côté du fédéral, on a déjà mis à jour la liste. Il aura droit au crédit. Même chose pour la version 100% électrique. Cela dit, au Québec, on n'a pas mis à jour la liste, mais quand on lit les critères, Ça cadre, là, mais en même temps, il y a des trucs qui nous échappent. On avait parlé dans une autre tribune du duo Volvo S60-V60. Ouais. Il y a des petits moments comme ça où on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais tout porte à croire qu'effectivement, ils auront droit là, au crédit autant fédéral que provincial. Alors, de ce côté-là, c'est intéressant. Petite note, la version de base du Niro électrique n'est pas muni de la pompe à chaleur. Alors évidemment, là, ouais. Pour de mémoire, c'est 2 500 $ de plus. On passe au niveau d'équipement supérieur et là, on a la pompe à chaleur. Je pense qu'au Québec, c'est un... on se pose même pas la question.
Oh oui, mais c'est une seule autonomie annoncée.
Oui, une seule autonomie annoncée qui est un petit peu bonifiée par rapport au modèle sortant. On était à 385 km. On est à 407 km pour le modèle 2023. Pourquoi pas? Franchement, je trouve ça très bien. J'ai noté ma consommation après avoir parcouru, je le sais, c'est pas très scientifique, c'est pas beaucoup de kilométrage. On a fait 110 km avec le véhicule et au bout de ça, on avait une consommation de 13,5 kWh au 100 km.
C'est pas beaucoup.
C'est vraiment pas beaucoup. Je veux pas dire que je suis sceptique, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je serais très curieux de le mettre à l'essai sur une période un petit
mais
peu plus...
Mais en Californie, au mois de novembre, il fait 18. C'est conditions parfaites.
Oui, voilà. Et là, est-ce que j'ai pas noté le nombre de pentes qu'on a montées versus celles qu'on a descendues? Mais je serais très curieux de le remettre à l'essai dans les conditions québécoises. J'ai beaucoup parlé du Niro. Je te laisse maintenant la parole pour parler du BMW X7 2023.
Bon, BMW X7 qui a été remodelé partiellement. J'ai pu conduire la version X-Drive 40i. Puis évidemment, BMW a toujours tendance à nous faire essayer des versions de performance. M50i. J'ai conduit la XB7 Alpina aussi, qui est une bombe épouvantable. Et là, d'avoir un 6 cylindres de 375 chevaux là-dedans, je me disais, ça va peut-être être un peu moche,
ordinaire.
Mm-hmm. Tu sais quoi? C'est ma version favorite.
Parce qu'on a un équilibre intéressant?
Ben voilà. Le 6 cylindres en ligne BMW, c'est un moteur exceptionnel en partant, mais dans ce véhicule-là, il fait un travail génial. Il y a de la souplesse, il y a de la puissance, c'est doux, ça va bien. On n'a pas des roues de 29 pouces comme sur les autres modèles. Là.
Voilà qui est intéressant aussi.
Cela dit, le véhicule que je conduisais avait l'option des roues de 22 pouces que je ne choisirais pas.
Mm-hmm.
Mais c'est un véhicule dont le comportement est très intéressant, super confortable. Bien sûr, on est autour de 100 000 $ pour cette version-là.
Mais c'est la norme dans ce segment-là.
Bon, on a modernisé, on a changé l'esthétique du véhicule un petit peu. Nouveaux écrans à bord, beaucoup plus modernes comme présentation, très efficace au niveau de l'ergonomie. Ça, j'ai bien aimé. La consommation, je m'attendais à mieux. Tu vois, j'ai fait une moyenne à 11,7 litres au 100. Évidemment,
C'est énorme, là, un X7. Là, on ne peut pas s'attendre à des miracles non plus. Là. On a un mastodonte à déplacer.
Oui, mais avec un 8 cylindres sur autoroute, tu aurais fait à peu près la même chose.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a une limite de résistance au vent. Évidemment, c'est un gros véhicule imposant, alors comme tu disais. Puis, il n'y a pas d'hybridation encore dans cette version-là. Est-ce que ça va arriver éventuellement? Sans doute. Mais c'est clair que c'est un véhicule. C'est moins gros quand même qu'un Cadillac Escalade. Quand tu es au volant du véhicule, tu n'as pas l'impression de conduire un mastodonte américain. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on veut rivaliser. On veut aller jouer dans les plates-bandes de Cadillac avec ce véhicule-là, dans les plates-bandes de Land Rover, évidemment, Mercedes GLS. Mais c'est un véhicule dynamiquement plus intéressant que la très grande majorité de ses rivaux. Puis c'est un peu pour ça que je le choisirais avant bien d'autres joueurs. Bon, avant Mercedes, ça, oui. C'est clair. Je conduirai dans les prochaines semaines le nouveau Range Rover. Mm-hmm. Alors, ça sera...
Qui a l'air assez prometteur.
Oui, qui a l'air assez prometteur. C'est sûr que le Cadillac Escalade, c'est une autre expérience complètement. Ça n'a rien à voir. C'est un authentique camion sur châssis indépendant. Mais l'X7, compte tenu de ses dimensions, c'est un véhicule dont la maniabilité est remarquable. Et puis, il y a un certain plaisir de conduire qu'on retrouve là-dedans, que tu peux pas retrouver ailleurs dans un véhicule aussi gros que ça.